Chers frères et sœurs, à supposer que cela vous ait échappé par un petit moment d'inadvertance, ayons bien conscience que l'Évangile n'est pas réservé aux chrétiens. L'Évangile n'est pas seulement pour les chrétiens. Évidemment, cela peut sembler une évidence, et pourtant, dès les premiers temps qui suivirent Pâques, lorsque les apôtres entreprirent de partager la bonne nouvelle proclamée par Jésus, quelque temps après Pâques en vérité, il y eut de fortes tensions à ce sujet. Il y eut des tensions entre ceux qui voulaient que l'Évangile soit prêché aux gens du fichier paroissial et à eux seuls, et puis il y avait ceux qui voulaient l'annoncer aussi aux autres, aux étrangers, à ceux qui ne connaissaient rien à la religion de Jésus et peut-être même qui ne croyaient pas vraiment au ciel, pour reprendre une expression du poète. L'apôtre Paul fait partie de ceux qui se sont investis auprès des païens, auprès des gens sans foi, sans religion, sans temple ni synagogue, du moins du point de vue de ceux qui étaient au sein d'une communauté religieuse. Et cela lui a été reproché. Jusqu'à ce qu'ait lieu cette réunion, ce synode à Jérusalem, probablement vers l'an 51 de notre ère. Et c'est de cela dont il est question dans ce passage biblique. Une discussion assez musclée entre cadres d'église pour savoir s'il fallait s'intéresser uniquement aux personnes inscrites dans le fichier paroissial et peut-être même simplement à ceux qui versent une offrande nominative, ou s'il était possible de s'adresser aussi à ceux qui n'en faisaient pas partie. Avec peut-être même, dans l'esprit de l'apôtre Paul, une option préférentielle pour ceux qui, justement, ne faisaient pas partie du fichier paroissial. Au final, tout le monde tomba d'accord sur le fait que l'Évangile était pour tous, pour ceux du dedans et pour ceux du dehors, pour les déjà juifs et pour les pas encore chrétiens finalement. À l'apôtre Pierre, le service des juifs, à l'apôtre Paul, le service des nations. Les circoncis pour Pierre et les païens pour Paul. Chacun chez soi, et les brebis seraient ainsi bien gardées. Mais tout cela fait-il un peuple de Dieu ? Ou est-ce une manière de faire du séparatisme ecclésial, ferment du séparatisme religieux, qui évidemment fragilise toute société humaine au lieu de renforcer cette société dans ses fondements et dans son avenir ? Je propose d'observer cela à partir de deux aspects qui jaillissent parmi d'autres dans ce texte biblique, la considération pour les personnes et la liberté offerte par le Christ. Le premier axe d'observation, c'est l'individu. Car derrière la religion, avec ses discours, avec son catéchisme, avec sa doctrine, derrière les institutions religieuses, derrière les sacrements, derrière les offices, derrière les prières, derrière les génuflexions parfois et tous les gestes rituels en vérité, il y a Dieu et il y a des personnes. Nous ne devrions jamais l'oublier. On ne devrait pas oublier, nous qui avons appris que le Shabbat, la loi, est faite pour l'homme et non l'inverse, que même la religion est faite pour l'homme, pour Dieu, et pas l'inverse. Dieu, l'homme, ne devrait jamais s'effacer derrière la religion, aussi stimulante soit-elle. Toujours est-il que les colonnes de l'église mère qui est à Jérusalem, les personnes les plus importantes, les plus structurantes, les chefs, considérèrent qu'il fallait respecter certaines choses tout de même, pour être fidèle à la révélation faite par le Christ Jésus. Par exemple, Jésus était juif. Il avait été donc circoncis dans ses premiers jours. Et comme il n'avait pas dit qu'il fallait arrêter de circoncire les garçons, eh bien, il fallait donc continuer à le faire. Paul, lui, considère qu'il faut respecter les personnes avant toute chose, pour être fidèle à la révélation faite par le Christ Jésus. Ce qui anime Paul, ce n'est pas la fidélité par rapport aux formes religieuses, ce n'est pas la loi rituelle qui le mobilise, ce sont les gens, ce sont les individus, ces êtres de chair et de sang qu'il a tellement malmenés dans sa jeunesse. Paul a fait tuer des apôtres de Jésus, quand il était encore ce pharisien impulsif qui voulait défendre l'honneur du judaïsme. Sacrifier peut-être les brebis perdues d'Israël pour sauver l'honneur de sa foi israélite. Et puis il a donc fait cette rencontre mystique sur le chemin de Damas que j'ai à peine évoquée, le Christ l'interpellant, lui demandant, on l'entend dans le livre des Actes des Apôtres, « Pourquoi me persécutes-tu ?» Et voyez, cette expérience, à la fois terrible et profondément humaine, a certainement travaillé en profondeur l'humanité de Paul. Paul sait plus que quiconque quel est le prix de la vie, lui qui a fait couler le sang. Il sait quelle est la valeur d'une personne, d'un individu. Il en a suffisamment fait tuer pour ne plus sacrifier qui que ce soit sur l'autel de l'intolérance religieuse, du fanatisme, de la radicalisation. Je ne dis pas que Jacques, le frère de Jésus, qui dirige la communauté de Jérusalem et qui est donc premier parmi tous les apôtres, est un fanatique. Il me semble toutefois qu'il est, dans une certaine mesure, assez radicalisé par rapport au respect scrupuleux des rituels et des normes. Vous savez, ce sentiment étrange, lorsqu'on prend des responsabilités et qu'on a à cœur de tenir ces responsabilités, notamment auprès d'une communauté, ce sentiment étrange que si nous ne respectons pas les formes telles qu'elles ont été respectées jusque-là, les gens vont partir et que la communauté va s'effondrer. Comme si les formes étaient les seules à tenir une communauté. Je vous dis ça tranquillement en étant encore aujourd'hui en robe pastorale. Mais l'important n'est pas là, voyez-vous. L'apôtre Paul, lui, vise le bien-être des personnes et l'épanouissement de leur spiritualité, de leur relation à Dieu, de leur connaissance de ce que le Christ a incarné pour que chacun puisse personnellement s'engager dans la voie ouverte par le Christ Jésus et fasse de l'amour sa véritable loi. Et on pourrait dire qu'avec l'apôtre Paul, nous passons de la loi rituelle à la loi éthique, qui devient un cœur et pas une forme. Au fond, l'amour va développer sa propre forme. Cette considération des personnes, plutôt que des dogmes et de la discipline ecclésiastique, n'est pas seulement l'affaire de l'apôtre Paul. C'est aussi la perspective de Dieu dont l'apôtre Paul rapporte qu'il ne fait pas de considération de personne. Évidemment, dans notre langue française, il y a une sorte d'ambiguïté dans cette traduction de Louis II. Il nous faut peut-être revenir un peu sur le texte grec pour lever cette ambiguïté. Une manière plus heureuse de traduire cette phrase serait de dire que Dieu ne fait point acception des personnes. C'est une formule assez semblable à celle que l'on trouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 17. Peut-être qu'au plus près du texte grec, l'apôtre Paul écrit que Dieu ne prend pas le visage des hommes, le prosopone. Autrement dit, il ne s'en tient pas aux apparences. Il ne s'en tient pas au masque social que nous avons, le masque de l'acteur, bien utile pour entrer en relation avec autrui, mais qui, finalement, dissimule le cœur même de notre personnalité. Dieu, lui, sonde les cœurs et les reins. Ce qui est bien différent des fanatiques religieux qui, pour leur part, jugent les gens sur les apparences religieuses, sur le vocabulaire employé dans les phrases, peu importe que ces phrases n'aient aucun lien avec la réalité, peu importe que le vocabulaire ne soit pas pensé et que finalement ces mots religieux, ces mots théologiques ne soient que des cache-misères. Peu importe pourvu que tout cela ait bien l'apparence de la piété. Bref, Paul écrit que les personnes de l'Église qui sont les plus considérées parmi les hommes, celles qui jouissent de la plus grande notoriété, celles dont on parle dans les repas paroissiaux, et qui n'a pas beaucoup de prix aux yeux de Dieu, puisque Dieu ne prend pas les apparences auxquelles les hommes s'attachent pour argent comptant. Eh bien, les personnes les plus considérées, donc, n'ont rien imposé à Paul, rapporte l'apôtre Paul, si bien qu'il a pu continuer à s'occuper des incirconcis, car les incirconcis, eux aussi, sont au bénéfice de la grâce de Dieu. Non pas par une sorte de lubie personnelle de l'apôtre Paul, mais parce que c'est ce qu'il avait compris de l'existence de Jésus. Et on peut évidemment, d'une manière un peu sommitale, penser à cet épisode où Jésus rencontre cette femme syrophénicienne qui n'a vraiment rien à voir avec la foi israélite, qui lui implore un geste de bienveillance pour son enfant qui ne se porte pas bien. Et dans un premier mouvement un peu spontané, un peu instinctif, Jésus lui fait comprendre qu'il n'est pas venu pour les chiens ou les chiennes dont elle fait partie, mais pour les brebis perdues d'Israël. Mais son insistance, sa foi, qui dépasse tous les clivages religieux, fait dire à Jésus que jamais il n'a vu une foi pareille dans tout Israël. Et il reprend sa lecture personnelle de sa vocation intime pour comprendre la dimension universelle qui lui incombe. Par-delà toutes les frontières religieuses et même sociales, comme nous le verrons par les autres épisodes où il n'hésite pas à aller à la rencontre des gens qui sont mis à l'index. Ainsi, précisément parce que Dieu ne fait pas de séparatisme et inspire des personnages qui vont transcender toutes les tentations de séparatisme, précisément, Dieu désigne l'amour universel. L'attitude bienveillante de Paul envers les incirconcis s'inscrit donc dans cette dynamique divine qui ne connaît aucune frontière, aucune limite, aucune entrave. Ainsi, la mission auprès des incirconcis, auprès des goïms, les gentils, les nations, fut comprise comme une grâce proprement divine. Et Paul a été compris comme un agent de la grâce divine qui transcende les particularismes, qui transcende les communautarismes et qui, ce faisant, met le communautarisme en échec. En ne se contentant pas de s'occuper des gens qui étaient sur le fichier paroissial, l'apôtre Paul a fait valoir une part importante de la grâce qui ne fait point exception des réputations, des étiquettes, des affiliations et des autodésignations. La grâce transcende tout ce qui fait obstacle à l'humanité des personnes. C'est ce que l'apôtre Paul a montré en transgressant les usages. Paul, donc, bouge les lignes. Il transgresse les usages de l'époque. Et c'est le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est cette liberté dont il fait preuve. Depuis des siècles, la circoncision des garçons était le moyen d'entrer dans l'alliance avec Dieu. C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 17, que cela est dans une certaine mesure institué avec le personnage Abraham, qui devient Abraham d'ailleurs. La circoncision était la condition d'entrée dans la communauté. Cela était bien stipulé dans le livre de l'Exode au moment de la sortie d'Égypte. Si quelqu'un voulait célébrer la Pâque avec vous, qu'il soit circoncis. Cette disposition est toujours d'actualité dans le judaïsme, mais elle est rendue caduque par l'apôtre Paul, qui, je le rappelle, fut pourtant un fervent pharisien par le passé. Paul estime qu'on peut entrer dans l'Alliance par la foi en Christ, indépendamment du rituel de la circoncision, ce qui, à l'époque, constitue une véritable révolution théologique. Ce n'est plus un rite qui fait entrer dans l'Alliance, c'est la foi. Ce n'est plus la circoncision qui rend les hommes fils de Dieu, c'est la foi qui nous permet d'accueillir l'Esprit divin d'adoption, qui fait de nous tous des fils et des filles bien-aimés. Nous sommes incorporés dans le peuple de Dieu, non par un rite, mais par la confiance dans l'amour inconditionnel que Dieu porte à chacun de nous et qui n'attend jamais le moindre rite pour être effectif. Cela constitue un bien commun susceptible de faire société. Et cela rejoint un peu le premier point, voyez-vous, parce que l'amour de Dieu a vraiment un caractère universel qui n'attend jamais le moindre rite pour être effectif. Toutes et tous sont au bénéfice de cela, qu'ils le sachent ou non. Alors l'apôtre Paul remet les choses dans le bon sens. La grâce de Dieu est première, la foi nous permet d'accueillir la grâce, et les rites qu'il ne va pas balayer d'un revers de main. Les rites permettent de prendre conscience et de pouvoir rendre cela visible autour de nous. Le rituel a donc un rôle secondaire dans la dynamique de la grâce, ce que l'on nous explique avec la situation de Tite, qui est grec, qui n'est pas juif, qui n'a pas été circoncis et qui ne le sera pas. Car la circoncision ne nous rend pas fils de Dieu. La circoncision confirme le fait que nous sommes fils de Dieu. Mais pour l'apôtre Paul, il y a peut-être un moyen un peu plus universel de pouvoir signifier cette alliance entre Dieu et chaque être humain. Le baptême pourra être considéré comme une nouvelle manière, plus universelle, puisque ce rituel ne sera pas réservé aux seuls garçons, mais qu'il sera valable pour tous, sans distinction. Bien avant que les femmes puissent voter, qu'elles puissent ouvrir un compte bancaire sans l'assentiment de leur conjoint, bien avant que les femmes puissent être pasteurs de notre Église. Il y a certainement d'autres choses qu'il faudra instituer dans les siècles à venir. Bon, toujours est-il que si l'apôtre Paul arrive à transgresser un usage qui était finalement un peu en deçà de la prédication de Jésus, il n'en demeure pas moins qu'il rencontre de fortes résistances, notamment auprès de faux frères, des pseudadelphoi, des pseudo-adelphoi, des pseudo-frères, qui s'opposent à la liberté que procure Dieu à l'égard des rituels et qui sortent les aérofreins quand ils voient comment l'apôtre Paul se comporte, qui disent « Oh, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait dans l'Église, ce n'est pas comme ça qu'on fait dans notre institution, car il y a des formes qui semblent inévitables ». Alors les pseudo-frères sont ceux qui pensent que la religion permet d'avoir en fait le pouvoir sur les gens. Et ce que ces faux frères voient dans l'attitude de Paul, c'est que le pouvoir de coercition qu'ils ont sur les gens est en train de leur échapper. Parce que si on ne peut plus contraindre les gens à être circoncis pour être authentiquement fils de l'Alliance, on perd le pouvoir sur ces gens-là. On n'a plus la possibilité de flécher la communauté pour leur dire « c'est le passage obligé pour être considéré comme l'un des fils de Dieu ». Ce sont ceux qui utilisent la religion pour assouvir leur soif de contrôle des consciences et qui aimeraient que tout le monde leur obéisse. Fasse ce qu'ils disent de faire et pense ce qu'ils pensent. En dehors de la religion, cela existe aussi, évidemment. Tous les groupes de pouvoir, tous les groupes de pression qui créent des fidélités particulières, des intérêts de caste, de corporation, aux dépens de l'intérêt général. Eh bien, l'intérêt de la geste de Paul à l'égard de la circoncision est de remettre l'essentiel au cœur de nos décisions. Paul remet Dieu au centre de la religion, à la place du pouvoir humain. En relativisant la circoncision et toutes les institutions, l'apôtre Paul met chacun directement face à Dieu, le fameux Coram Deo de Martin Luther. Sans les intermédiaires, qu'en plus, le plus souvent, il faut payer. L'apôtre Paul profane le sacré au sens où il rend le sacré disponible pour tout le monde, en toute liberté, sans en passer par les fourches codines de quelque institution que ce soit. Le sacré disponible pour tout le monde, juif ou non, homme ou non, considéré par les autres hommes ou non. C'est une véritable démocratisation que l'apôtre Paul entreprend. Dans la veine des prophètes qui eux-mêmes avaient entrepris de relativiser des rituels dont ils disaient que Dieu n'en a vraiment rien à faire, voire qu'il les a en horreur dans le livre du prophète Ésaïe. Des rituels qui éloignent les humains de la justice sociale, rappelait justement le prophète Ésaïe, notamment la bienveillance envers les pauvres, ce qui constitue l'espérance de Dieu qui est rappelée de manière ultime dans ce passage. La loi rituelle est relativisée au profit de la loi éthique. L'apôtre Paul réinjecte la liberté dans le champ religieux parce que chaque individu est effectivement affronté à des situations uniques en leur genre qui nécessitent d'inventer des réponses qui ne sont jamais dans le grand code de la loi. Rituel. Il faut toujours faire preuve de cette souplesse que permet l'esprit d'adoption du baptême, parce que nourri par l'amour de Dieu, et non pas nourri par l'amour des formes religieuses qui sont nécessairement figées, car inscrites dans le marbre de nos constitutions et de nos disciplines ecclésiales. Paul récuse que la religion soit une affaire de contrainte au sens d'un carcan auquel il faudrait se soumettre. Paul ne récuse pas l'obéissance, il récuse la soumission à un carcan qui serait le fruit d'un système de pouvoir qui asservit les âmes au lieu de permettre aux âmes d'être véritablement tendues vers ce qu'il y a de plus sacré dans l'existence. Paul récuse que la religion soit un système de coercition. Il rappelle que la religion est un moyen de reconnaissance d'autres voies, d'autres pratiques, d'autres discours, d'autres formes que celles que nous connaissons et que nous pratiquons, d'autres formes par lesquelles la grâce s'exprime pour tout un chacun. Chaque personne, nous fait comprendre l'apôtre Paul, chaque personne a un appétit plus ou moins grand pour la transcendance, mais il n'en demeure pas moins vrai que nous sommes toutes et tous chatouillés par la grâce, que nous croyons au ciel ou que nous n'y croyons pas encore. Et la religion est un moyen par lequel nous pouvons prendre conscience de ce que la grâce produit en nous. Et c'est en ce sens que les institutions ne sont pas à supprimer, car elle nous offre les moyens de penser ce que Dieu construit en nous. Elle est aussi le moyen par lequel nous pouvons identifier les entraves qui nous retiennent de vivre de la grâce, ce que l'Ancien Testament appelle les idoles. La vraie religion, ainsi, permet à chacun de vivre de la grâce en toute liberté, ce que je nous souhaite puissamment. Amen.